14h38 jusqu'à 13h en direct, les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, donc, votre invité dans nos studios, vous recevez Alain Lédé de l'association Vendée Ukraine, Emmanuel.
Et oui, qu'on a reçu il y a un peu plus de 8 mois maintenant, hein, un peu plus de 8 mois que la guerre en Ukraine a éclaté. Et même si on ne connaît pas l'avenir, tout le monde semble bien se préparer à un conflit long et douloureux. Dès les premières heures de l'invasion russe, une association est donc entrée en action, c'est Vendée Ukraine. Elle n'est surtout pas en sommeil, au contraire, elle nous a semblé nécessaire d'effectuer un point aujourd'hui avec vous, le président Alain Lédé. Bonjour.
Bonjour.
À quelques jours d'un spectacle organisé au profit de l'association à Chalon avec l'entracte Froide Fondée, mais aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il y aura la musique au mois de novembre pour Vendée Ukraine. Donc, je le disais, on vous avait reçu au tout début du conflit et vous nous aviez raconté, on avait vu, hein, vous avez mis très vite en place des actions, organisé la venue de nombreuses femmes et enfants et familles aussi d'Ukraine, donc organisé le voyage, l'accueil, la collecte aussi en Vendée de produits de première nécessité, de matériel, de soins d'hygiène. Je vous propose de faire un petit point sur chaque action qui sont toujours en cours, hein, et sur vos besoins également. Vous avez déjà des liens depuis des années, hein, grâce notamment aux joyeux petits souliers, des liens privilégiés avec des habitants de Lviv, où justement les joyeux petits souliers dansent normalement depuis des années. Alors quelles sont les nouvelles? Vous avez toujours des nouvelles quotidiennes quasiment de Lviv?
Oui, tout à fait. On a beaucoup de familles que l'on connaît, chez qui on était hébergé quand on allait en temps de paix les visiter et amener des fonds pour les différentes structures que l'on aide. Et elles nous tiennent informés régulièrement de ce qui s'y passe. Donc, comme vous avez pu le voir pendant tout l'été, c'était plutôt calme au niveau des bombardements sur la région de Lviv. Et puis, il y a eu cet attentat sur le pont de Mariupol, de la Crimée, pardon, qui a redéclenché de nouveau des bombardements. Donc, les Ukrainiens à Lviv, comme ailleurs, d'ailleurs, avaient repris entre guillemets une vie normale, ont voulu et souhaitent de toute façon montrer que même s'il y a la guerre dans l'est de l'Ukraine, le pays doit continuer à avancer, il faut reconstruire et autres. Et donc, ils avaient repris entre guillemets une vie normale jusqu'à ces derniers bombardements qui les ont un petit peu arrêtés. Pour autant, pour montrer un peu la résilience des Ukrainiens, à l'école de danse des Joyeux Petits Souliers, ils avaient repris les cours dès la rentrée, donc assez tôt, hein, et pendant 2 mois, à tel point qu'aujourd'hui, ils sont en mesure de pouvoir présenter un spectacle et qui vont venir en France, alors pas dans notre région, hein, ça sera pour le mois d'avril, mais ils vont venir en France présenter leur spectacle. C'est pour vous montrer que malgré les bombardements, malgré qu'à un moment il a fallu se réfugier, ils ont continué à s'entraîner et ils sont prêts à venir, et pour montrer que le pays continue à vivre malgré l'adversité.
Et vous annoncez leur venue au mois d'avril en Vendée alors, hein ?
Alors, au mois d'avril en Vendée,
promis,
ils seront présents
un spectacle qui d'après vous sera fort de sens, hein,
oui,
sans doute.
J'avais l'habitude de présenter avec François Blanchet les spectacles au mois d'avril. Je pense qu'il faudra qu'on s'accroche. Déjà, il y avait beaucoup d'émotions dans ce qu'il nous présentait avant ces événements, même si quand ils nous présentaient avec Maïdan, c'était déjà des événements Maïdan de 2014. Ils nous ont fait des tableaux qui étaient déjà assez qui nous bouleversaient.
Oui,
là, je pense que ça sera encore pire effectivement au mois d'avril. Mais on va essayer d'aller les voir. Ils sont dans le Tarn, en Gironde, et puis après en Bretagne,
en Haute-Bretagne.
Mmh. On ira essayer de voir pour voir un petit peu comment c'est et voir comment on peut présenter ça tout en restant sans faire de misérabilisme, mais en expliquant vraiment ce qui s'y passe. Oui.
Donc ils vous racontent effectivement, ils vont danser, et puis parfois ils n'y vont pas parce qu'il y a des sirènes. Il faut aller se cacher.
C'est exactement ça. Et donc, c'est plus facile pour les personnes qui ont des maisons avec des sous-sols pour aller se cacher. Pour ceux qui sont, nous on le voit bien, ils sont 800 000 habitants. Dans le pourtour, vous avez des immeubles sur des dizaines d'étages. Quand vous habitez dans des immeubles et que les sirènes commencent à sonner et qu'il y a des bombardements, d'aller se réfugier, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes chez vous. Et donc, la plupart des gens, c'est vraiment une peur que ça vous tombe dessus. Même si c'est vrai que c'est plutôt des centrales électriques, tout ce qui sert à alimenter en eau qui a plutôt été touché. Pour autant, il y a quelquefois des roquettes qui tombent aussi sur des civils et pourquoi pas vous. Donc c'est sans cesse. Alors, on pense à nos enfants, on trouve que ces enfants qu'on a eus chez nous qui sont venus en France à l'âge de 3 ans, mais tous ces enfants qui doivent être traumatisés forcément de ce qui puisse.
Et ça continue. Quand je dis qu'on s'attend à un conflit long, c'est un petit peu à ça que tout le monde se prépare.
C'est ça. Alors, ils s'attendent à un conflit long. Dans l'est de l'Ukraine, même si, compte tenu que les Ukrainiens repoussent les Russes, ils sont persuadés d'une victoire rapide, mais vous savez comment c'est quand vous êtes convaincu, vous avez envie en plus que ça s'arrête. Mais je pense que ça va être vraiment centralisé dans l'est de l'Ukraine, que Poutine continuera malheureusement à envoyer quelques roquettes à des endroits stratégiques pour montrer qu'il y a bien une emprise encore russe sur l'Ukraine. Mais le conflit risque de durer sur cette partie-là. Pour autant, on sait que dans le reste de l'Ukraine, ils déminent les champs pour pouvoir ressemer le blé. Ils reconstruisent les maisons, les remettent en état et tout, comme ils le peuvent. Même si on sait que l'État a déjà expliqué qu'à l'ouest de l'Ukraine, il allait y avoir des personnes de l'Est qui allaient venir parce que leurs maisons sont pas suffisamment, enfin avec les moins 20, moins 30 degrés qu'il peut faire en Ukraine, il va falloir qu'ils viennent sur l'ouest dans des gymnases ou autres et qu'on puisse continuer à s'occuper d'eux.
On va parler justement de l'hiver qui se prépare. Alors déjà, dès février, vous avez permis à des femmes, des enfants, des familles de venir. Une grande partie est assez vite retournée au pays tout de même.
C'est cela. Donc je vous disais, cet été, les bombardements se sont... il n'y en avait plus en fait. Hein. Tout redevenait à peu près normal. Donc on a eu des familles dont l'employeur leur a dit, voilà, au mois de septembre, il serait bien de reprendre le travail. L'éloignement des enfants avec leur papa, ils se sont dit, bah allez, on va... Voilà, la rentrée scolaire a fait que sur les 30 familles, 80 Ukrainiens qu'on avait chez nous. Donc il nous reste aujourd'hui 23 Ukrainiens, c'est-à-dire 8 familles. Il y en a 57 Ukrainiens qui sont repartis donc chez eux. Même si quand les bombardements ont repris là, comme en début octobre, on a eu une ou deux alertes de familles qui ont dit et si jamais on venait, comment ça se passe par rapport aux autorisations provisoires de séjour qu'on avait, etc. En se disant est-ce qu'on revient ou est-ce qu'on revient pas. Bon, c'était vraiment un petit moment, mais oui, voilà. Et donc il nous reste 23 aujourd'hui.
Ils ne sont pas revenus.
Non, ils sont pas revenus pour l'instant. Ouais. Non, ceux qui sont partis ne sont pas revenus.
Donc 8 familles présentes dans des situations très variées, très distinctes.
Oui. Alors variées d'abord dans le mode hébergement. Certains sont toujours en famille d'accueil depuis le mois de mars et ça se passe très bien. On a des super histoires à raconter sur ces gens-là. Et puis d'autres familles ont été relogées dans des logements pour des raisons, alors des familles d'accueil qui s'épuisaient, ça peut arriver aussi. Hein, faut se dire les choses.
Hein, bien sûr.
Mais ça, on l'avait déjà dit.
C'est
ce qu'on avait dit au mois de mars et au mois d'avril. Ça s'est passé comme on l'avait dit.
Oui, au bout de quelques
mais
mois.
On a montré qu'on était là. C'est-à-dire que quand une famille était dans le désarroi, ils ne pouvaient plus. On a trouvé soit une famille transitoire, soit des logements ou autre. Et donc on a 4 familles qui sont en logement individuel avec des enfants qui eux sont scolarisés. Donc voilà, mais chacun a une vie un petit peu à soi. On a même réussi à faire rentrer une jeune fille de 18 ans donc en fac de biologie à Nantes avec une deuxième famille d'accueil pour l'héberger la semaine et puis elle rentre le week-end dans l'autre famille
habituelle. Et vous dites des très très belles histoires. Elle a une très belle histoire là, qui vous vient en tête là, qui est en train d'être vécue.
Ben, c'est celle de Sacha donc qui quand elle était alors Sacha donc qui est une jeune fille, la jeune fille dont je parle qui est maintenant en fac de biologie, donc elle rêvait de faire des études pour être médecin en Ukraine et elle a saisi comme une opportunité, alors elle parle bien le français donc ça aide aussi, mais elle a saisi comme une opportunité le fait d'être en France avec sa maman et son frère pendant un certain laps de temps pour se dire je tente l'aventure et j'essaye de me présenter pour pouvoir entrer en fac de biologie. Et donc elle a été passée son bac équivalent bac français donc ukrainien à l'ambassade d'Ukraine à Paris cet été. Elle nous a sorti des notes qui sont toutes sont notées sur 12,
excellent,
toutes entre 10 et 12,
voilà.
De ses scolaires présentés, et du coup la fac l'a pris sous son aile pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Elle vit malgré le cauchemar de son pays un rêve éveillé, c'est ce qu'elle nous dit.
Elle par ses études qui peuvent être possibles, bravo à elle et à sa volonté évidemment. Certains des enfants scolarisés, eux, ils ont une belle barrière de la langue, ça dure encore 8 mois après leur arrivée.
Oui, alors c'est compliqué pour eux et c'est compliqué pour les professeurs aussi.
Bien sûr.
Donc ils font des cours, des heures de cours dédiées dans toute la partie ludique, dans toute la partie mathématique, c'est plus facile. Dès qu'on est en termes de jeu, le langage est commun hein, quand on est enfant.
Plus facile.
Les chiffres, c'est un peu pareil aussi. On arrive quand même à pouvoir. Voilà. Après, quand on est sur la partie langue et autres, donc ils ont des cours de français particuliers. Nous, on leur donne aussi des cours de français le week-end qu'on organise entre autres sur Chaland et Saint-Gilles. Donc on essaye. Et puis il y a des maintenant la Croix-Rouge et autres qui font aussi ce genre de choses pour pouvoir leur permettre de s'intégrer. Quoi.
C'est un bel élan en tout cas, solide. Alors il y a eu évidemment cette arrivée, l'accueil de famille, et puis dès le départ aussi vous avez mis en place des collectes et des envois de matériel en Ukraine, des envois réguliers, importants, ils sont toujours actifs, hein. Vous avez encore pas mal d'envois depuis le mois de septembre là.
C'est ça, donc on continue à envoyer du matériel régulièrement, on est rendu à peu près une vingtaine de semi-remorques depuis le début des événements,
c'est
donc
beaucoup,
c'est à peu près, oui c'est presque un par semaine, trois par mois environ, avec des moments un peu plus intensifs que d'autres, là on est il y a convoi sur convoi qui partent. Alors on envoie du matériel qu'on avait collecté précédemment, mais on envoie aussi du gros matériel, des lits médicalisés, beaucoup de lits médicalisés qui nous sont proposés par les services hospitaliers et puis les EHPAD, qui vont directement dans les hôpitaux. Là on en a 100 qui partent à Kharkiv.
Ah oui.
Donc Kharkiv qui est à la limite de la frontière de l'Ouest, donc qui va permettre de pouvoir continuer à donner des soins aux Ukrainiens.
Mais donc vous payez le camion, le chauffeur,
oui,
tout ça quoi.
Alors on paye un transporteur, ça n'a pas changé, le mode opératoire opératoire fonctionne toujours. Un transporteur polonais donc qui nous emmène ça jusqu'à un dépôt donc à Kotun en Pologne. On en a maintenant un nouveau à Prizmil, pas loin de Lviv, avec des personnes qui réceptionnent le matériel à cet endroit-là, puis qui ensuite vont l'amener donc à Ternopil ou à Lviv, voire même maintenant à Odessa, à Kharkiv. On a trouvé un partenaire aujourd'hui qui nous emmène ça sur place en fonction des endroits où on les envoyait par petit volume ou gros volume en fonction des besoins. Et on finance tout ça.
Et vous l'avez dit, l'hiver se prépare. L'hiver en Ukraine, c'est pas l'hiver à Châlons, hein, c'est pas la même chose.
C'est ça, les températures, moins 10 jusqu'à moins 30 dans l'est de l'Ukraine. Dans l'est de l'Ukraine où la plupart des maisons ont été détruites ou sont dans un état délabrement tel que l'État a déjà prévenu les autorités de l'ouest de l'Ukraine que tout le monde va être rapatrié sur l'ouest où ça sera un peu plus chaud, c'est-à-dire au lieu d'être à moins 30, vous serez à moins 10. Et donc là, il va y avoir des personnes qui vont, enfin des populations qui vont doubler, hein. À Lviv, 800 000, 1,6 million. Ternopil, c'est 150 000, 300 000 personnes qui vont être mis dans des gymnases ou autres, et donc qui vont avoir besoin de denrées alimentaires et de première nécessité comme on avait tout au début, les produits d'hygiène, les produits pour les bébés, le lait en poudre, etc. Enfin, toutes ces choses-là dont on va avoir besoin.
Et donc ça, on peut en amener aujourd'hui. Vous avez encore un site qui est actif pour la collecte.
Alors, nous en avons un à Châlons.
Oui.
Ça, c'est le premier site qui nous reste. Et puis, après, quand on a des appels de personnes qui se trouvent avoir du matériel, on a de moins en moins quand même de gens qui vont spontanément dans les dépôts pour le faire. C'est pour ça que les dépôts se sont petit à petit fermés, parce qu'ils mettent des bénévoles à disposition ou voir la commune de La Roche qui mettait carrément du personnel. À un moment ou un autre, forcément, ça tombait un petit peu. Donc, on a celui de Châlons qui est toujours en fonctionnement.
Alors, il est où, rappelons-le.
Alors, salle des Noues, rue des Noues, pardon, la salle de la Vossette.
Salle de la Vossette.
11 rue des Noues. À Châlons.
Et on peut venir quand?
Je pourrais vous les redonner, mais je crois que c'est les mardis et les vendredis.
D'accord. Et là, donc, on a besoin, vous le dites, de denrées alimentaires, de couverture.
Oui, on revient. Alors, couverture, vêtements chauds, bien évidemment. Des chaussures chaudes aussi, dans les pointures usuelles. Pas besoin de 45 ou de. Mais dans les chaussures. On avait un appel pour des besoins de chaussures ou autres. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la capacité, à part le site de Châlons, à pouvoir les réceptionner. Alors, on est en train d'essayer de réfléchir pour éventuellement recréer de l'engouement dans les écoles pour qu'on ait que quelques points à aller les chercher. On est en train de travailler sur des projets comme cela.
Ouais.
En contrepartie de quoi, on essaierait de susciter aussi un petit peu d'expliquer ce que c'est que l'Ukraine aussi aux jeunes qui sont aujourd'hui scolarisés.
Donc effectivement, relancer un petit peu la machine aussi de cette collecte.
C'est ça.
Puisque vous avez toujours effectivement des semi-remorques qui vont en Ukraine.
Oui.
Par ailleurs, vous êtes soutenu par des assos locales, par des artistes. On va parler de ces spectacles organisés depuis le début de l'année d'ailleurs pour Vendée Ukraine, pour l'Ukraine. Ce sont des fonds importants, il me semble, qui sont ainsi réunis. On en parle aussi car dimanche, vous aurez une pièce proposée par l'Entracte Froide Fondée de nouveau, cette fois à Châlons, au Marais, pour Vendée Ukraine. Et puis d'autres rendez-vous à venir, on en parle en 3 minutes.
Juste après Isia, que nous écoutons maintenant avec Mon Cœur sur Neuve.
par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre. Fais sauter le moniteur, mon cœur. Un, deux, trois, je te crois quand tu portes ta boue de bois.
C'était Mon Cœur sur Nove. Jusqu'à 13h, on y retourne avec les rendez-vous de midi. Aujourd'hui, Emmanuel, dans nos studios, vous recevez Alain Lédé de l'association Vendée Ukraine.
Et oui, son président qui, donc, depuis le début du conflit, est actif avec des bénévoles aussi. Beaucoup d'actions ont été réalisées. Et puis, beaucoup d'actions sont aussi menées au profit de Vendée Ukraine par des artistes, des associations. On a eu des spectacles de magie, concerts, théâtres. J'imagine que voilà, ces initiatives sont vraiment bienvenues pour vous.
Ah oui, c'est énorme. D'abord, alors, c'est à deux niveaux. Financièrement, ça représente à peu près un tiers des fonds qu'on a collectés, donc c'est quand même assez énorme. Et puis ce qui est bien en même temps, c'est que ça nous permet de créer, enfin, de susciter le besoin qu'il peut y avoir en Ukraine au travers de ces spectacles. C'est-à-dire que les gens viennent voir un spectacle, mais en même temps, on essaye de leur expliquer un petit peu le contexte. Et donc, ça permet à tous ces spectateurs non seulement de voir un spectacle, non seulement de faire une belle action en nous permettant de collecter des fonds, mais en même temps de se dire je fais quelque chose pour la cause ukrainienne que l'on explique lors de ces différentes manifestation.
Alors, le prochain rendez-vous, c'est dimanche au Théâtre Le Marais à Châlons avec l'entracte Froide Fondet qui avait déjà remis un chèque de 2 739 € précisément à Vendée Ukraine pendant l'été, après avoir joué le Maître des Baumettes. Et bien, l'entracte Froide Fondet vient à Châlons jouer la pièce et je vois que c'est organisé par et au profit de Vendée Ukraine. Donc là, on avance un petit peu d'un cran. Vous êtes aussi dans l'organisation aujourd'hui.
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que, je vous le rappelle, l'association Vendée Ukraine a deux missions, une mission humanitaire, une mission culturelle. La mission humanitaire, vous la connaissez. La mission culturelle, c'est de faire venir les joyeux petits souliers pour présenter des spectacles, je vous l'ai dit, au mois d'avril.
Oui.
Quand l'entracte Froide Fondet m'ont dit comme ça, voilà, le Maître des Baumettes, c'est une pièce, on a envie de la jouer, parce que il y a un message derrière aussi, sur la nature humaine et autres. Elle bouleverse toujours un peu les gens, alors dans le bon sens du terme, on y passe aussi un bon moment, mais voilà, ça permet de se poser les bonnes questions. Est-ce que vous seriez prêt à porter cette pièce un petit peu au travers de la Vendée? Et on s'est dit, on va commencer par le faire à Châlons. Et donc là, du coup, oui, on l'organise en mettant le côté culturel, c'est vous présenter donc une pièce qui est très peu joué parce que les manuscrits, il y en a très très peu maintenant, c'est pas un vaudeville et tout,
oui,
c'est vraiment quelque chose
c'est un texte
de sympa.
Fort.
Voilà, c'est ça. Et puis en même temps, donc, de pouvoir contribuer financièrement à nous aider dans nos projets.
Alors, pour info, Le Maître des Baumettes, c'est une pièce qui a été écrite par Edmond Luc, je crois, dans les années 50 et qui revient sur l'affaire de Minichi. Donc, on est sur une affaire forte, hein. Grand fait divers et plus encore. Et vous dites un message fort sur l'être humain.
C'est ça. L'affaire de Minichi, c'est le point de départ, c'est le point qui permet d'emmener le sujet. C'est pas forcément l'affaire de Minichi, okay, qui est traitée derrière. On part de ça pour s'amener des questions. Mais je vous laisse découvrir, vous verrez. Venez nombreux, vous verrez, c'est sympa.
Alors on peut réserver, je vais donner le numéro. Puis si vous n'avez pas le temps de l'inscrire, il sera en podcast. Hein, réservation le soir, 18h-20h, au 09 87 67 40 82. Il y aura peut-être des billetteries sur place dimanche après-midi.
On fera sur réservation. Si jamais c'était complet, on préviendra.
Oui.
Mais effectivement, on peut aussi sur place en espérant. On est à 218 pour l'instant sur 262 de jauge, donc il faut
vite.
vaut mieux pas prendre le risque et de téléphoner avant.
Voilà, on téléphone le soir et ce sera dimanche après-midi au Théâtre Le Marais à 15h. Autre rendez-vous, ça vient aussi chez vous, hein, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parce qu'on a pas mal aussi d'acteurs de l'association à Saint-Gilles. Soirée-concert avec les Saumons Fumés, ce sera le 18 novembre à la conserverie et l'intégralité de la recette sera reversée alors à Vendée Ukraine et à l'association Les Joyeux Petits Souliers.
Oui, c'est cela. Effectivement, alors les deux, parce que l'association Les Jeux et Petits Souliers a son président d'abord, François Blanchet, et son siège social donc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Saint-Gilles, on le sait. Donc soirée-concert à réserver aussi, je vais donner le numéro, 06 60 80 92 20. Et donc on espère évidemment au mois d'avril vous retrouver avec Les Joyeux Petits Souliers pour des spectacles en Vendée. D'ici là, voilà, si on veut vous aider, comment ça se passe pour vous joindre, Alain Lédé, en tout cas l'association Vendée Ukraine?
Alors, je ne veux pas vous demander de mettre mon numéro de téléphone. Non. Si vous tapez Vendée Ukraine sur Internet, vous avez une adresse mail et un numéro de téléphone qui apparaît. Il n'y a pas de site en tant que tel. Hein. On n'a jamais travaillé le site, ça prend du temps.
Il n'y a pas de page Facebook non plus.
La page Facebook, c'est Joyeux Petit Soulier, exclusivement. Okay. Parce que je trouve, après, derrière, on pourrait, hein, mais non, on relaie plutôt de l'info. En l'occurrence, avec l'entraide de Fred Fondet, on est plutôt sur du relais et tout. On n'a pas encore mis le bénévole en place pour le faire, mais on a tellement d'activités autres que. En fait, on s'est dit, on met une page, ça a largement suffi malheureusement au moment des événements, puisque on a été submergé de demandes, mais n'hésitez pas à appeler à ces numéros, envoyer un mail, l'adresse mail, sinon autrement, moi je veux bien les centraliser,
bien
donc
sûr.
C'est Alain, le -8-du-bas, l'aide, donc, @orange.fr. Et là, je relayerai en fonction de vos besoins à telle ou telle personne pour
vous donner réponse. Vos semaines sont assez intensives encore. Hein.
Oui, mais on leur doit bien ça, avec tout ce qu'ils nous ont apporté pendant toutes ces années avec leur spectacle, on leur doit au moins de pouvoir être là dans ces moments aussi compliqué.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Alain Lédet, donc Vendée Ukraine, et on le rappelle, hein, au Marais, au Théâtre Le Marais dimanche à Chalon, c'est le maître des baumettes avec l'entracte Froide Fondet, et c'est donc au profit de l'association évidemment de l'Ukraine. Et écoutez, à très bientôt, hein, j'espère, pour peut-être de meilleures informations à donner sur ce beau pays.
Merci encore.
Merci Alain, à bientôt. Demain, les Jeudis de l'écho.
Oui, l'association a fêté ses 30 ans il y a quelques jours et participe dès vendredi à la braderie du village Oasis. C'est Esnov, on en parle avec sa directrice Christine Perredo.
Demain, 12h35 évidemment, sur Neuf. Et évidemment, l'émission podcast comme les précédentes, ça arrive dans quelques petites secondes à écouter tranquillement de chez vous. 9fm.fr et l'appli Oshi pour la suite après l'info. Les The Cranberries sur Neuf, il est 13h. Neuf.